bonjour. Donc bonjour, bonjour, bonjour.
1, 2, 3.
Là, il y a de la mousse qui est enlevée.
Oh.
3, 2, 1, c'est parti.
Je ne suis pas un intrus, juste un imprévu.
Singulier au pluriel. FPP.
Sur FPP 106.3 FM.
Et merde. Voilà, le merde, tu vas peut-être pouvoir le couper, hein. Bon, tu pourras le mettre comme jingle.
Bonjour, comme tous les quatrièmes mardis du mois, vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue et rfpp.net pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Et cette émission sera bientôt, mais quand je l'aurai mis à jour, hein, mise en ligne sur le blog de Singulier au pluriel, sur l'audioblog Singulier au pluriel, sur Arte Radio. Et le mieux, c'est de taper Singulier au pluriel en un seul mot, mais ne pas oublier le S à singulier parce que singulier est au pluriel, mais pas de S à pluriel puisque pluriel est au singulier. Et donc Arte Radio, et vous tomberez dessus. Donc aujourd'hui, on reçoit Lise Bourquin-Marcadet. Bonjour Lise.
Bonjour Yves.
Et Sophie Coquelin.
Bonjour.
Hein, et donc, Lise, tu vas nous parler de ta maison d'édition. On en avait déjà parlé il y a quelques années, je pense 3 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, qui s'appelle Kangil. Parler de quelques-uns des livres que tu viens de sortir, ou que tu as sorti il y a quelques temps d'ailleurs, parce que il y a des bons livres, c'est comme du bon vin. Des fois, ça vieillit bien. Et Sophie, donc tu es auteure et illustratrice, et tu as aussi beaucoup illustré pour... voilà. Alors, je vais rapprocher un peu ton micro.
Oui, ou c'est moi qui me rapproche, peut-être. Merci.
L'un ou l'autre, hein, c'est comme on veut. Donc, on va parler donc aujourd'hui de littérature, hein, de livres et d'édition. Alors, la musique qu'on a écoutée, que j'avais accrochée à mon jingle, hein, c'était Jacob Peix. Ou P-A-I-X, je ne sais pas si on prononce Pex ou Pex ou Pech.
Je n'en ai pas la moindre idée.
Hein, mais toujours est-il que c'est donc un compositeur allemand du XVIe siècle, de la Renaissance. Et pourquoi du XVIe siècle et de la Renaissance? Je vais te laisser en parler, Lise. Enfin, parce que ça correspond à un livre extraordinaire que tu as édité, et de Béatrice Tanaka.
Ben, un très beau roman, un gros roman, dont le titre est « Peindre comme on chante en marchant ». Et je veux tout de suite dire que ce titre est inspiré d'une des phrases du livre de Béatrice Tanaka, qui, à la fin du livre, le héros du livre dit « Je sens le manche usé du vieux pinceau de maître Matisse entre mes doigts, et dans le murmure de la houle, j'entends l'écho de sa voix parlant de fleurs lucides. Et je sais que je ne serai jamais un peintre, jamais comme lui, mais que je peindrai. » Je peindrai comme on chante en marchant par une nuit de tempête contre le vent. Et tant pis si l'orage emporte notre petite chanson. Ce livre de Béatrice Tanaka, qui va fêter son 83e anniversaire le 1er mars prochain. Béatrice, dont la langue maternelle est l'allemand, qui est brésilienne, qui écrit en français, est née à Chernovitz, en Ukraine aujourd'hui. Vous savez, dans cette partie de l'Ukraine qui est au sud des Carpates, à l'époque, c'était encore la Roumanie. Et elle est juive, elle a immigré au Brésil en 1947. Et à l'âge de 20 ans, elle est née en 1932, donc, et à l'âge de 20 ans, elle revient en Europe avec sa mère. Et elle découvre à Colmar une peinture extraordinaire qu'aujourd'hui tout le monde connaît, mais qui à l'époque était dans un tout petit musée poussiéreux et peu ouvert, le fameux retable d'Isenheim, peint par Matthias Grünewald. Matthias Grünewald, retable qui a été attribué à Dürer, qui a été attribué à toutes sortes de peintres. Goethe pensait que c'était Dürer. Quand Goethe faisait ses études de médecine à Strasbourg, il avait vu cette peinture superbe en disant « c'est Dürer ». Bon, il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'on se rende compte finalement avec des gens comme Huysmans et des gens comme ça que ce n'était pas Dürer. Et Byron a adoré cette œuvre aussi. Et donc Béatrice Tanaka est tombée amoureuse de cette... Béatrice Tanaka juive est tombée amoureuse de cette peinture très chrétienne que le monde entier vient voir à Colmar aujourd'hui. Hein, par avion entier, on vient des États-Unis, du Japon et d'ailleurs. Et donc, à propos, Maître Matisse est un personnage, Matthias Grünewald est un peu un artiste exceptionnel qui a probablement été un des chefs de la révolte, la fameuse révolte des paysans au XVIe siècle, qui est donc 1524, et qui a embrasé toute la Rhénanie et tout le cœur de l'Europe à la suite de la révolte des paysans, à la suite de la traduction, évidemment, en langue vulgaire de la Bible par Luther. 30 pages de ce livre sont consacrées à cette guerre des paysans. Et ce livre n'est pas uniquement un hommage au peintre. Béatrice est elle-même mariée à un très grand artiste peintre, Flavio Chiro, qui lui est né au Japon, qui est brésilien également. Ce livre n'est pas seulement un hommage à l'artiste, c'est aussi une sorte de saga du XVIe siècle dans cette partie de l'Europe. Et l'histoire d'un petit garçon qui naît à Colmar en 1522, qui devient d'abord apprenti imprimeur dans la première imprimerie qui était à Colmar à l'époque, celle de Maître Farcal, qui ensuite va être emmené par son grand-père, qui rencontre Maître Matisse alors qu'il a 5 ou 6 ans et qui veut devenir peintre comme lui, qui rêve de le retrouver plus tard, qui va passer sa vie à le chercher jusqu'à ce qu'il le retrouve à Mayence très très tard. Et ensuite, ce petit garçon accompagne son grand-père qui évidemment s'appelle Frey, qui comme chacun le sait veut dire libre en allemand, dans la guerre des paysans. On assiste également à la réimpression de l'éloge de la folie à Bâle. On rencontre Holbein le jeune, Erasme aussi, qui est insupportable d'ailleurs. Et l'histoire commence et se termine à Amsterdam, où ce petit garçon, finalement, n'a pas pu devenir peintre, mais est devenu un imprimeur. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans ce texte, je veux lire un tout petit extrait. Ça s'appelle « C'est à la fin aussi » et il pense à son enfance. La chanson du petit paysan. « Plus de 2 ans se sont écoulés depuis notre arrivée aux Pays-Bas. Je suis devenu maître ouvrier. J'ai troqué ma paillasse de compagnon contre une petite chambre claire où mon dessin de la main de maître Matisse délavé par les pluies de Flandre veille sur un matelas et sur ma chemise du dimanche. Pour le reste, je me sens revenu à la case départ de ma quête, à mes premiers mois à Bâle, mais sans aucun dessein ni but. Sans amis, excepté Yossi, puisque l'amitié se nourrit de rêves partagés. Parce que Yossi est parti, mais Yossi est son seul ami, ils se sont nourris de rêves partagés. Sans relation même, car dans cette petite ville où les gens se retrouvent, le dimanche, soit dans la vieille église, soit dans le temple calviniste, le petit-fils de Martin Frey est doublement étranger. Mon horizon s'est rétréci aux murs entre lesquels je travaille ou ceux dans lesquels je dors, de la rue qui relie mon logis à l'imprimerie et au marché où j'achète de quoi manger. Parfois, je me dis que je ne vis pas, j'existe, bulle vide, entourée d'un corps qui insiste pour survivre. Je crois que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce personnage, Yann, qui vivait au XVIe siècle et qui était un émigré à Amsterdam.
Qui était un émigré et en plus, pour moi, une des choses que... Parmi toutes les choses que j'ai beaucoup aimées dans ce bouquin, hein, dans ce livre, c'est qu'on fait un tas de rencontres. Donc on rencontre Erasme.
Dürer.
On rencontre Dürer, on est dans l'intimité de Dürer. Et c'était...
Oui, parce que la femme de Dürer s'appelait Frey. Donc elle s'imagine que ce jeune homme qui est en quête de Matthias Grünewald, elle s'imagine que c'est un petit cousin, donc elle l'accueille. Elle est dure, la femme de Dürer, mais elle a eu une vie dure aussi. Béatrice Tanaka s'est beaucoup documentée, c'est une femme amoureuse de tout ce qui est autour de l'art, de la peinture, de la sculpture, etc. Elle s'est beaucoup, beaucoup documentée, elle a passé beaucoup de temps. Alors, elle a été très aidée en particulier par l'ancien merveilleux conservateur de la bibliothèque de Colmar, dont le nom m'échappe maintenant, parce que c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps. En réalité, ce livre « Peindre comme on chante en marchant » de Béatrice Tanaka, pour Maître Matisse, donc un hommage à Matthias Grünewald, ce livre qui est illustré en couverture avec une représentation, une carte de la ville de Colmar en 1548. Mmh. Hein, ça fait 20 ans que Béatrice a commencé à l'écrire et qu'elle y travaille et que j'ai beaucoup travaillé avec elle. Parce que tout à l'heure, tu disais tu ne savais pas comment on prononçait, j'ai même oublié le nom de ce musicien du 16e dont nous avons entendu quelques phrases musicales.
Jacob Pay.
Voilà, alors cette histoire de Béatrice était truffée de mots alsaciens, allemands. C'est quand même 300 pages et un très gros boulot pour l'éditeur, pour ne rien cacher. Très passionnant, mais un très gros boulot. Et par exemple, comment traduit-on Papi Hannes, Papi Hannes, hein. Et alors, je me suis un peu amusée aussi. Hein. Donc, c'est devenu l'âne à papier. Des choses comme ça. Bon, voilà. Quand on publie un roman, c'est un roman historique, très documenté, en plus d'être une très belle histoire, avec des personnages merveilleux. On apprend tout sur la manière dont vivait un petit apprenti dans une imprimerie à cette époque-là. On apprend vraiment beaucoup de choses sur la vie des petites gens à l'époque. Et c'est un livre vraiment merveilleusement humain, avec aussi ce que la violence fait aux êtres humains. Et le mal qu'elle leur fait. Et Béatrice, évidemment, est assez bien placée pour en parler. Elle a retrouvé là des choses qu'elle a un peu connues sous d'autres cieux.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre même en rapport avec une actualité, avec un passé. Et c'est quelque chose qui garde une actualité et qui est lisible, qui est un bouquin qui est très, très agréable à lire, mais qui est lisible aussi par des gens très jeunes.
Oh oui, je pense qu'on peut vraiment... Il faut être lecteur quand même, c'est 300 pages, hein, mais c'est écrit en gros caractères. J'ai fait exprès de publier un livre assez gros, écrit en assez grand caractère, avec pas mal de chapitres, et bien aéré, pour que ce soit agréable à lire, facile ouais. à lire. C'est écrit aussi gros que les bouquins de fantasy, comme on dit, n'est-ce pas, que vendent nos éditeurs pour la jeunesse, et dans lesquels, honnêtement, il n'y a rien. Et donc, tandis que là, on lit ça, et on a une belle histoire, et en plus, on sort un tout petit peu plus savant, un tout petit peu plus intelligent, et peut-être un peu plus tolérant, j'espère aussi.
Alors, ce que je propose, c'est qu'on réécoute quelques notes de Jacob Pay. Alors, c'est une danse hongroise, hein, toujours du XVIe siècle. Et je ne sais pas, mais quand j'ai écouté ça, pour moi, ça résonnait bien avec ce livre. Hein. Et après, on reparlera un petit peu quand même des éditions, parce que quand Gilles n'est pas que ce livre, hein, que peindre comme chanter en marchant.
Mais quand Gilles, ce sont des auteurs et des livres.
Voilà, hein. Donc il y en a... Tu pourras nous en parler un petit peu plus quand même de Kangil en général, et puis après on parlera de quelques-uns des autres bouquins qui sont
ici. Et surtout de Sophie Quéclin qui est avec nous quand même.
Et de Sophie, bien sûr. Ouais.
Moi j'écoute, j'adore.
Donc Jacob Pay, Ungaresca. Thank you. toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue et www.rfpp.net en streaming partout dans le monde. Et on est toujours avec Lise Bourquin-Mercadet et Sophie Coquelin et nous continuons donc à parler des éditions Kanjil. Et donc là, on vient de parler hein, de peindre comme...
Peindre comme on chante en marchant.
Peindre comme on chante Sanaka. En marchant.
Un hein. Beau roman.
Oui, très beau roman de Béatrice Tanaka. Mm. Mais donc, Kanjil n'a pas édité que ça. Tu as plusieurs collections et c'est quand même assez divers.
Donc c'est Kanjil avec un L à la fin et pas Kanji comme un japonais.
Oui.
Et c'est un nom indonésien. Et c'est le nom d'un petit animal, un petit mouse deer, disent les Américains, un petit cerf-chevreuil, nain, qui vit dans les forêts de Bornéo, qui vit vraiment dans les forêts de Bornéo, mais qui est surtout un héros des contes traditionnels indonésiens qui passe sa vie à lutter contre les tigres, les crocodiles, les serpents et autres prédateurs de sa jungle à lui. C'est en souvenir de Kanjil et la guerre des tigres que je vais d'ailleurs republier en 2015 avec un CD et que j'avais publié dans ma précédente maison d'édition en 1984, un livre avec une cassette à l'époque. C'est en souvenir de Kanjil et la guerre des tigres, ce conte traditionnel indonésien dans lequel Kanjil empêche le puissant roi des tigres de Java d'envahir son île de Bornéo, que j'ai appelé ma maison d'édition Kanjil. Nous publions peu. Je travaille avec des auteurs que je connais depuis toujours, que j'aime, qui sont des amis. Je les suis. Nous publions uniquement des coups de cœur. Je ne m'interdis rien, ni adulte, ni jeunesse. Nous ne sommes pas un éditeur jeunesse, nous ne sommes pas un éditeur adulte. De Béatrice Tanaka, je publie des livres pour les enfants, des livres pour les adultes. Nous allons sortir deux petits volumes de contes du Brésil à l'occasion du Salon du Livre. Afro-brésilien et indien du Brésil, très chouette. J'ai publié l'histoire de Chico Rey, ce héros afro-brésilien qui libéra les siens sans violence et qui est enregistré avec un superbe samba chanté par Martinho Davila. C'est une histoire de Béatrice Tanaka, qui, je rappelle, est brésilienne. J'ai publié Les Matrioshka de Natacha, ça c'est une histoire russe avec de la musique russe que nous venons de réimprimer parce qu'il était épuisé pour la énième fois. Très belle histoire pour, que les enfants aiment en maternelle et que les petites filles adorent à 12 ans, ce qui est quand même extraordinaire. J'ai publié La plume des Andes avec Sophie Coquelin qui est à côté de nous et qui a écrit un texte magnifique d'une grande portée poétique sur des peintures. Pour une fois, ce n'est pas elle qui était illustratrice et peintre, Sophie. Mais dans ce livre-là, ce n'est pas elle qui a peint ou illustré. Le peintre s'appelle Véronique Dubois. Elle vit à Lure. Et c'est une histoire qui se passe dans les Andes. L'histoire d'un Indien, un musicien indien des montagnes du Sud qui part à la rencontre des Indiens des plaines du Nord et que j'ai enregistré avec la musique d'Unia Ramos. Je crois qu'on aura peut-être la chance d'en entendre
peut-être,
un peu.
On aura les,
voilà.
Les musiques
j'ai publié parles, une histoire qui se passe au bord du Mississippi avec Sophie Coquelin, dont on parlera, je pense, aussi, et qui est une histoire très positive et très belle d'un petit garçon qui est né dans un petit garçon noir qui est né dans une plantation de coton et qui va être vendu pour aller travailler sur un bateau à roues sur le Mississippi. Je crois qu'on en parlera aussi, et qui est enregistré avec des blues du Delta, superbement illustré par Sophie, des illustrations superbes. J'ai publié tout récemment un livre qui est sorti donc en 2014. Nous n'avons pour l'instant que 7 titres, nous en aurons 8 en 2015 de ces fameux livres CD qui sont chacun une petite perle, un trésor et je les réimprime quand ils sont épuisés. Bon voilà. Eh bien, Dis-moi des chansons de France, c'est un enregistrement qui date de 1990 du grand Bruno de la Salle, plus connu pour le chant de l'Odyssée d'Homère et les épopées qu'il raconte, l'organisateur et fondateur du festival Epos à Vendôme, entre autres. Et là, il s'est adonné à un petit exercice merveilleux qui consiste à raconter, chanter les chansons que chantent tous nos enfants, du roi Dagobert à Cadet-Roussel, en passant par Il pleut bergère et la légende de Saint-Nicolas, dans un livre somptueusement illustré par Sophie, avec une partie documentaire dans la deuxième partie. Voilà. Et puis, j'ai publié aussi, Mimi Barthélémy, notre chère Mimi, qui nous a quittés subitement en avril 2013 et que j'ai enregistré pour la première fois en 1989, c'est vous dire à quel point je suis fidèle, La Reine des Poissons, 1989. Je l'ai publié dans ma première maison d'édition avec cet enregistrement. Je l'ai republié, je crois, en 2010 ou 2011, j'ai oublié. À nouveau, elle était épuisée. Je viens de la réimprimer.
Ouais.
Qu'on le sache, elle est à nouveau disponible, La Reine des Poissons, avec des superbes illustrations qui sont des peintures sur soie de Clémentine Barthélémy, une fille de Mimi, et avec une traduction en créole. Je mets toujours dans les livres haïtiens du créole et du français. Et puis un petit bouquin dans la même collection, qui n'est pas un petit bouquin, un très beau livre CD qui s'appelle « 10 mois des chansons d'Haïti », qui est actuellement au Grand Palais avec la grande exposition haïtienne du Grand Palais que je recommande à tout le monde d'aller voir. Elle se termine le 16 février prochain. 2 siècles d'art haïtien. Et « 10 mois des chansons d'Haïti » pour apprendre à partir des chansons d'Haïti, la grande histoire d'Haïti qui se cache derrière les petites histoires des chansons.
Mmh.
Voilà. Donc, c'est assez varié. Alors, de Béatrice Tanaka, j'ai publié... Béatrice, progressivement, je vais republier à peu près tout ce qu'elle a publié dans le passé et auquel elle tient, c'est-à-dire 150 contes, pour commencer. Je publie aussi des livres qui sont des livres un peu difficiles au départ parce qu'ils demandent beaucoup de travail. Béatrice n'a jamais publié comme écrivain adulte jusqu'à présent, donc peindre comme on chante en marchant. Et son premier vrai roman adulte, ce n'est pas facile de faire pénétrer dans les librairies un roman adulte d'un auteur très connu en matière de littérature pour la jeunesse. J'ai publié ses mémoires aussi. Voilà, des choses un peu hétéroclites. Mais chaque fois des choses qui sont des accompagnements de gens que j'aime.
Dans ses mémoires, il y a sous d'étranges étoiles, dont on avait consacré une demi-émission à ce bouquin il y a quelques années, qui est un superbe livre aussi.
Ben, un livre très d'actualité aussi, hélas, puisque c'est un livre dans lequel cette petite fille raconte comment une petite fille juive née à Chernovitz en 1932 traverse la période nazie. Et puis émigre finalement au Brésil après une traversée de la mer Noire, M-E-R-N-O-I-R-E, en un seul mot, comme elle disait à l'époque, la mer Noire, la petite fille. Mm-hmm. Traverse la mer Noire pour aller passer 2 ans et demi en Palestine en 44, c'est-à-dire avant que ça ne devienne Israël, avec toutes les déceptions pour Béatrice aujourd'hui. De ce qu'est devenu Israël.
Et qu'elle sent et qu'elle dit bien, ou elle comprend tout de suite que ça ne marchera pas, quoi, que ce n'est pas...
Exact.
Voilà. Donc, c'est en fait, on pourrait dire quasiment deux collections, finalement. Hein.
Oui, il y a deux. Alors, dans ma petite tête et dans les livres que je publie, il y a une collection de livres CD. Donc, je vais en sortir un 8e, un 9e. On n'en fera pas 50 000, hein, mais quelques beaux livres CD. Parce que maintenant, tout le monde en fait. Moi, quand j'ai commencé à enregistrer tous ces gens-là, c'était dans les années 80 et personne ne faisait des livres CD. J'ai recommencé à publier en 2005 parce que je me suis arrêté entre 94 et 2005. Et entre-temps, tout le monde en faisait. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, moi, c'est pour la mémoire que je travaille. D'ailleurs, l'axe de ma maison d'édition, c'est des récits du passé pour comprendre le présent. Donc je choisis en priorité de publier des œuvres qui soit sont importantes pour l'histoire de ces œuvres et mon histoire, soit qui nous racontent des choses importantes pour qu'on comprenne notre civilisation et notre monde aujourd'hui. Et l'autre, donc, j'appellerais ça, disons, roman et mémoire. Hein, voilà, et ce sont des livres un peu plus... Alors, effectivement, la dernière série de romans, celle que j'ai publiée tout au long, 4 romans tout au long de l'année 2014, j'ai fait traduire le plus grand écrivain de romans pour la jeunesse du Brésil. Elle s'appelle Ligia Bojunga. C'est une jeune femme qui est une amie de Béatrice, qui est à peine plus jeune que Béatrice. Un seul livre d'elle existait en France, chez Flammarion. Et donc, j'ai profité de la possibilité qui m'était offerte pour faire traduire ces 4 merveilleux romans à l'occasion du prochain Salon du Livre de Paris, qui, comme vous le savez, a invité nos amis brésiliens. Mais Ligia était invitée, mais elle ne va pas traverser l'Atlantique parce qu'elle n'est plus très jeune. Elle a sa propre maison d'édition qui s'appelle la Casa Ligia au Brésil, avec l'argent. Elle a reçu le prix Astrid Lindgren, qui est le prix le mieux doté en matière de littérature, en tout cas pour la jeunesse. C'est quand même 600 000 euros, c'est énormément d'argent. C'est un prix internationalement reconnu, qui est donc donné à très peu de gens. Et avec l'argent qu'elle a reçu, au lieu de le mettre dans sa poche, elle a créé une fondation dans sa maison de campagne, dans une forêt sur les hauteurs de Rio. Elle a créé une fondation pour les enfants défavorisés qui accueille des autobus d'enfants tous les jours qui viennent en fait s'initier à des pratiques artistiques et culturelles. Ouais. Donc elle est un peu occupée. Mais elle a publié une vingtaine de romans qui se sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est une icône au Brésil, Ligia Bojunga, c'est une femme magnifique. Elle est traduite dans 19 langues, elle est lue dans le monde entier. Il y avait un seul livre d'elle en France, il était temps de redresser la barre.
Voilà,
Surtout que ce sont des livres qui nous parlent de choses très contemporaines. Ligia a écrit les 4 romans que nous avons publiés. Ligia les a écrits à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est-à-dire sous la dictature au Brésil. Mmh. Donc c'est pourquoi elle donne beaucoup la parole aux animaux, parce que ce sont des livres qui nous livrent une critique absolument incroyable de la société dans laquelle nous vivons et qui sont très prémonitoires. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a foutu pendant 50 ans, vraiment ?
Voilà, donc parmi les personnages, hein, donc dans Le Sofa et Le Rêve de Victor Tatou, c'est une chatte qui regarde la télé et un tatou.
C'est l'histoire d'un jeune tatou qui est très timide, comme le sont beaucoup de jeunes gens, même s'il est très malin. Et il est très timide. Et alors, chaque fois qu'on le contrarie ou qu'il est intimidé, il est pris d'une quinte de toux absolument insurmontable. Mais il a trouvé un truc, parce qu'il a des griffes. Les tatous ont des griffes. Ça, c'est un animal qu'on connaît très peu, nous, en Europe. Hein. Il faut apprendre à le connaître. Il creuse le sol, il creuse la terre avec ses griffes et il rentre sous terre lorsqu'on l'indispose. Donc, c'est une très belle image, évidemment. Et ce jeune tatou, on dirait, monte à Paris. Là, il va à Rio et il tombe amoureux fou, parce que sa vie dans la forêt, les tatous. Et il tombe amoureux fou d'une chatte magnifique, une chatte angora, blanche, avec des poils somptueux, avec des grands yeux verts, complètement idiote, qui passe sa vie à regarder la télévision. Donc, à bon entendeur, salut. Ceux qui passent leur vie à regarder la télévision, c'est pas terrible.
Voilà, et puis donc il y a un autre bouquin aussi que je recommande, hein, c'est La Maison de la Marraine. Et donc là, on va croiser comme personnage donc, un jeune garçon, et un pan.
Un jeune garçon des bidonvilles de Rio qui en a vraiment marre de passer sa vie sur la plage à vendre des glaces en novembre, qu'il ne vend évidemment pas. Et donc ce jeune garçon ne rêve que d'une chose, c'est d'aller à l'école, mais ses parents lui ont demandé de travailler, il ne peut plus aller à l'école. Et son frère aîné est parti pour São Paulo, mais son frère lui racontait des histoires quand ils avaient très faim tous les deux la nuit pour l'endormir. Vous savez, c'est un peu l'histoire des mille et une nuits, sauf que ce n'était pas pour éviter le couperet, c'était pour qu'il arrive à s'endormir. Alors le frère lui racontait des histoires et un jour il lui avait parlé d'une marraine et d'une maison, d'une marraine quelque part loin. Et donc un jour ce jeune garçon dit j'en ai marre et il décide de partir pour la maison de la marraine. Et en effet, en route, il va rencontrer un paon, un animal un peu bizarre, il a beaucoup de problèmes, ce paon, parce qu'on lui a fait suivre une école qui s'appelle Drater, ça veut dire retard à l'envers. Et dans cette école, c'est une école à retarder la pensée. On a l'impression d'être dans des écoles qu'on connaît bien. Et le malheureux paon, il a échappé au cours discours. Là, il est sorti à peu près indemne du cours discours. Mais finalement, il s'est fait avoir parce qu'on lui a posé un petit filtre. On lui a dit qu'on allait lui poser un petit filtre ravissant. Alors, à cause de ce petit filtre ravissant, il ne pense plus qu'au goutte à goutte. C'est dire comme c'est lent et c'est dire comme c'est peu. Mais de temps en temps, heureusement, le robinet se dérègle. Hein, parce que la plomberie, ça ne marche jamais. C'est ça qui est bien. Hein. Et alors, quand le robinet se dérègle, là, le paon devient complètement intelligent et formidable. Enfin, bref, ils vont avoir toute une aventure. Ils vont à la maison de la marraine. Ils rencontrent une jeune fille, une adolescente du même âge que lui. Et c'est un livre magnifique, parce que c'est un livre qui, en même temps, nous livre beaucoup de détails sur la vie quotidienne de ces enfants au Brésil. fragiles, de ces enfants pauvres, des bidonvilles de Rio, mais qui ont un imaginaire absolument extraordinaire. Et c'est l'imagination et la beauté et l'énergie de et aussi l'audace de ce petit garçon qui vont totalement séduire la petite fille qui, elle, est une petite fille entre guillemets normale, avec un grand jardin dans une maison à la campagne, qui mange bien à sa faim, qui en principe n'a pas de problème. Mais grâce à lui et grâce à un cheval qu'ils vont inventer et grâce au paon qui les accompagne et toutes sortes d'autres personnages qu'on voit arriver petit à petit et à ce monde imaginaire absolument fantastique qu'ils vont créer à deux, ils vont réussir à s'échapper, à échapper à la bêtise du monde adulte.
Voilà, donc c'est un bouquin à lire. Et donc, avant de parler des bouquins que tu as écrits et ou illustrés, Sophie, je propose qu'on reste un tout petit peu au Brésil avec la samba... Comment tu l'appelles ?
Chicoreille.
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 Donc la samba Chicoreille.
Chantée par le grand Martinho da Vila.
Voilà.
Vivia no litoral africano, uma régia tribo bordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram, capturando homens para fazê-los escravos no Brasil. Na viagem agonizante, houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Adeus, baobá. Adeus, meu bem, eu já vou. Ao longe, mina jamais ouvia quando o rei mais confiante jurou a sua gente que um dia os libertaria. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou, para Vila Rica os levou. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou, para Vila Rica. Assim fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, iam à igreja e suas cabeças banhavam. Era ouro depositado na pia e guardado em outro lugar com garantia, até completar a importância para comprar suas alforrias.
Vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue et rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et cette émission sera bientôt disponible en téléchargement sur Internet, sur le blog Singulier au pluriel, Singulier au pluriel en un seul mot, hein, c'est sur la plateforme Arte Radio, donc il faudra aller sur son moteur de recherche et chercher Singulier au pluriel et Arte Radio, et vous arriverez dessus, parce que l'adresse elle est un peu trop compliquée, on ne la retiendra pas comme ça, si je l'ai dit. Donc on va parler maintenant des albums dont tu es auteur et illustrateur, dont tu es juste illustrateur, Sophie, et qui sont publiés donc chez Kangil par...
Par Lise. Sophie, oui. Avant qu'on ne commence sur d'autres choses, je voulais juste te dire, parce que ça, c'est l'extrait d'un des livres CD quand même. Hein. Ouais. Donc, dans ces livres CD, il y a toujours des musiques très belles et authentiques. Et dans ça, c'est la légende de Chicoreille, c'est un samba qui a été créé en 1964 pour le défilé du Salgueiro et que Martinho Davila a enregistré en 1986 et m'a autorisé à utiliser. Donc vous voyez, ce sont des choses très authentiques que l'on donne.
Voilà, et c'est donc c'est extrait du CD, du livre CD, La légende de Chico Rey. Et toutes les musiques qui vont suivre maintenant, d'ailleurs, seront extraites. Hein. Les premières musiques n'étaient pas dans les peindre comme on chante en marchant, parce que ça n'est pas un livre CD, ça n'est pas un album. Mais toutes les autres musiques qui vont suivre maintenant sont des musiques qui sont extraites des albums. Donc, on va peut-être commencer par parler de la plume des Andes, où tu interviens comme.
Comme auteur du texte.
Comme auteur du texte.
Oui, La plume des Andes était très intéressant parce que c'était d'abord une suite de toiles sur le monde amérindien, que ce soit le monde amérindien d'Amérique du Sud ou celui d'Amérique du Nord. Et Lise m'a demandé, en fait, d'inventer ou de créer une histoire par rapport à ces images.
Oui.
Et donc, je dois lever le micro, c'est ça ? De parler plus fort,
oui,
pardon.
Si tu peux parler un peu plus fort.
J'ai une voix un peu sourde. Les dessinateurs parlent peu. Hein. Donc, en fait, je suis partie sur cette série d'images qui racontait elle-même une histoire. Et c'était relativement simple de suivre en fait, le fil conducteur coloré de Véronique et d'essayer de parler des rapprochements culturels entre les Indiens d'Amérique du Sud et ceux d'Amérique du Nord sans être ennuyeux, c'est-à-dire en essayant de faire voyager les enfants en même temps que les images et que ce que représentait Véronique, c'est-à-dire des montagnes des Andes jusqu'aux plaines d'Amérique du Nord. Quoi.
Donc c'est un voyage qui part, et c'est un livre qui a toute une histoire.
Hein. Parce qu'au départ, Véronique Dubois, qui est peintre, a une fille dont le père est un musicien des Andes, un joueur de flûte Aymara de Bolivie. Et Véronique et lui se sont connus à Montréal. Ils ont eu une petite fille qui aujourd'hui a 25 ans, qui s'appelle Wara, W-A-R-A, qui veut dire étoile, en Aymara, en Quechua, en Kalawaya. Et c'est une fiction, mais c'est construit. Véronique a peint des toiles pour raconter cette histoire, en fait, au départ.
Là, et donc là, le texte est parti après les.
Après ouais, ce qui est assez rare en général, c'est plutôt l'illustrateur qui illustre un conte. Et là, c'est moi qui ai finalement mis des mots sur des images. Et c'est un exercice très intéressant à faire. Parce qu'il ne faut pas trahir non plus l'auteur des images. Surtout Véronique est une grande connaisseuse du monde indien. Moi, je connais un peu, bien sûr, mais moi, je suis moins immergée qu'elle dans ce monde-là. Quoi. Je parle indien d'Amérique, bien sûr. Hein. et voilà. Mais je me suis régalée. C'était un très grand plaisir. Et puis, ça m'a permis de faire un texte que j'espère... doux et poétique et qui, je trouve, correspond, enfin, est bien pour les enfants petits.
C'est un très beau texte. J'ajoute d'ailleurs que Sophie a enregistré elle-même ce texte. Alors ça aussi, on a juste un mot. Dans ses livres CD, il y a des comédiens, il y a des conteurs, il y a des auteurs. Je n'ai aucun parti pris. Je trouvais bien de demander à Sophie, qui a écrit un très beau texte, très porteur, très, très poétique, très initiatique, de dire son texte. Et elle a fait une lecture absolument parfaite.
Voilà, ça, c'est une des choses que j'aime bien dans ces albums. C'est qu'il y a le texte, les illustrations, donc c'est et il y a ensuite le CD qui va avec, enfin... Avant, c'était des cassettes, maintenant, c'est des CD. Mais ce n'est pas juste une illustration musicale. C'est vraiment quelque chose qui va... tout ensemble, c'est finalement un multimédia. Multimédia, mais papier CD, papier encre et CD. Quoi. Et l'histoire, en général, pour ceux que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, mais l'histoire est aussi racontée et mise en musique, mise en son. Quoi.
Et oui, et contextualisée. C'est-à-dire que, Sophie, tu peux parler de la musique, là, peut-être.
Alors, la musique, on peut peut-être en parler. Pourquoi, pour La plume des Andes, c'était évident de prendre un musicien flûtiste. Et donc, c'est ce qu'on a fait, quoi.
Voilà. J'avais connu, il y a très longtemps, Unia Ramos. Unia Ramos est mort au début de l'année 2014. Il fait partie des icônes. Hein, c'est comme Mimi Barthélémy. où il n'est pas mort, Martinho Davila, Unia Ramos. Ma génération, nous ne sommes pas très jeunes. Quand nous avons entendu pour la première fois et qu'on a commencé à parler de musique du monde, c'était les musiques amérindiennes du Sud et c'était Unia Ramos, le flûtiste magnifique qui est né à Humahuaca, aux confins de la Bolivie et de l'Argentine, et à qui son père, lui-même flûtiste indien, a taillé sa première flûte lorsqu'il avait 4 ans. Et dans cet enregistrement qui a été fait de musical qui accompagne La Plume des Andes, la musique a été enregistrée au Philharmonique de Berlin. C'est dire que c'était devenu un musicien immense, Unia. Mais les flûtes qu'il utilise sont toujours des flûtes qu'il a taillées lui-même. Il y a 3 flûtes dans cet enregistrement. Et cette musique-là, donc, évidemment, pour moi, c'était Unia Ramos, c'était le flûtiste de Simon et Garfunkel dans le Cantor Passa. Enfin, c'était un immense flûtiste, hein, Unia Ramos. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement un interprète. La musique que l'on entend là, ce n'est pas la musique traditionnelle des Andes. C'est la musique d'Unia Ramos qu'il a écrite et qu'il a créée. Seulement la manière dont il l'interprète, et l'âme qu'il y a dans cette musique. On est totalement dans un voyage sur les hauts plateaux andins.
Eh ben on va tout de suite l'écouter. Hein. Et donc c'est Unia Ramos. Donc c'est la fin de l'album CD. Alors j'ai fait ça a été mon parti pris hein, quand j'ai fait le CD, les illustrations musicales, où j'ai choisi les parties musique et j'ai pas choisi les parties racontées. Après tout, les gens qui racontent sont là, donc s'ils veulent le raconter, ils peuvent très bien le faire en live et en direct. Par contre, Unia Ramos, maintenant, il ne sera plus là avec nous, malheureusement. Donc, on écoute tout de suite Unia Ramos et le titre, parce que là, c'est une seule piste sur ce CD, donc je ne sais pas quel est le titre de cette chanson de Unia Ramos, enfin de cette musique.
Je ne sais pas lequel c'est. Là,
c'est la fin, tout à fait la fin du. Donc, on va tout de suite écouter Unia Ramos. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net en streaming partout dans le monde. Et donc, on vient d'écouter là, de Unia Ramos, et c'est une musique qui a été composée pour l'album. Hein, qui n'a pas été composée
c'est
pour...
C'est une musique qui a été composée par Unia Ramos, mais nous avons choisi ensemble des extraits de ses musiques.
D'accord.
Voilà, ce sont des musiques d'Unia Ramos. Pourquoi enregistrer de nouvelles musiques quand on a des morceaux sublimes,
absolument,
comme celui-là.
Et donc, on va tout de suite parler maintenant d'un autre album dont tu es, Sophie, à la fois l'illustratrice et l'auteur.
Alors, je suis... Oui, absolument. C'est « Un jour, je serai libre » qui est un texte que j'ai écrit en 82. Et qu'à l'époque, je l'avais écrit pour Lise et pour sa maison d'édition qui s'appelait à l'époque Vif Argent. Je crois bien que c'est le premier texte qui a été publié, que j'ai écrit. C'est un texte qui me tient à cœur. J'ai beaucoup rêvé dessus. Je me souviens d'avoir beaucoup travaillé. Je l'ai repris, je l'ai retravaillé et je me suis illustrée à 30 ans d'intervalle puisque la première édition était illustrée par un autre dessinateur. Donc c'est encore quelque chose d'assez étrange de s'illustrer soi-même à 30 ans d'intervalle. Quoi.
Je connais le dernier, un jour je serai libre, mais j'aimerais bien voir l'édition d'il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, tu devais être toute jeune quand même.
Je débutais, puisque en fait, il faut bien l'avouer ici, c'est Lise la première qui m'a donné ma chance dans ce métier. Et ça a été ma première éditrice. Donc vous voyez, quand elle parle de fidélité, c'est vrai. Et grâce à elle, j'ai pu démarrer dans le métier. Je travaillais à l'époque pour la presse enfantine, comme Fripounet et Marisette. Enfin, j'ai eu beaucoup de gens extrêmement sympathiques qui m'ont donné ma chance à cette époque-là, et en matière d'édition, c'était Lise qui était là, quoi, et qui a ouvert les portes.
La fidélité, elle est dans les deux sens, Sophie. Je te remercie de continuer à donner à Kangil des textes et des illustrations comme
ça. Là où je suis contente, c'est que j'ai progressé depuis, donc je pense que ce que je fais maintenant est un peu plus intéressant que les premiers dessins que je faisais. Bon, je faisais de mon mieux à l'époque, mais mon mieux n'était pas, n'est pas encore ce que je voulais exactement, quoi.
Et donc, dans ce bouquin, c'est « Un jour, je serai libre », hein, c'est l'histoire d'un petit garçon... Qui est
Alors oui, c'est ce que je voulais à l'époque, c'était raconter une sorte de Tom Sawyer du côté des Noirs américains et essayer de faire comprendre de façon douce aux enfants petits ce que pouvait être la vie d'un jeune esclave juste avant la guerre de sécession et ce que ça pouvait signifier, parce que c'est très compliqué d'expliquer l'esclavage aux enfants. C'est quelque chose de douloureux quand on sait que on a tous eu, à un moment donné de notre enfance, l'idée d'avoir été acheté par nos parents ou ce genre de choses. Enfin, moi, je l'ai entendu.
Non, moi, j'ai jamais eu cette idée-là. Hein.
Moi, j'ai entendu ça de la part d'enfants. Et là, en l'occurrence, c'est un enfant qui est vraiment séparé de ses parents, qui est acheté par un capitaine de navire sur le Mississippi et qui paradoxalement qui n'a connu que l'esclavage sur une plantation et qui le fait de travailler sur ce bateau lui fait découvrir un avant-goût tout intérieur et mental de la liberté, de ce que ça peut signifier à travers le voyage en fait et les rencontres qu'il fait, l'amitié qui se noue avec d'autres esclaves à bord du navire c'est aussi un récit initiatique. Je suis habituée au récit initiatique, décidément.
Ah, c'est aussi un récit initiatique. Et Marie-Jeanne, qui fait la technique, me rappelle que nous n'avons plus que 10 minutes d'antenne avant de retrouver au fond près du radiateur. Donc, il y a une partie de l'illustration, l'illustration sonore. Donc là, n'est pas totalement de toi.
Ah ben non, l'illustration sonore, en fait, c'est grâce au label Black and Blue que nous avons pu passer des blues qui ont été sélectionnés par mon frère, qui est journaliste, qui s'appelle Stéphane Quéclin, qui est journaliste et écrivain et qui est spécialiste de blues. Donc on a eu cette chance-là. Et donc voilà, quoi, c'est un livre assez riche, effectivement.
Je voudrais ajouter un mot sur ce livre et dire que ce qui est important, c'est que, Sophie, c'est toi d'ailleurs qui le dis en général, et je suis d'accord, c'est vraiment l'apprentissage de la liberté par le travail en équipe. ce petit garçon acheté dans cette plantation de coton. Il est malheureux puisqu'il va, il va quitter sa famille, il va partir. Mais sa mère lui dit « Ne pleure pas, ton vrai nom c'est Omondola qui veut dire enfant du bonheur, tu ne t'appelles pas Noé. Et notre espoir c'est qu'un jour tu seras libre à nouveau parce que tu viens d'un pays magnifique qui est l'Afrique. » Et en fait, elle lui fait un cadeau de départ, elle lui donne l'Afrique, elle lui raconte l'Afrique. Et lui, il part avec ce rêve d'Afrique en lui. Et il sait qu'un jour, il traversera l'Atlantique sur un bateau qui, lui, peut aller en haute mer. Et il ira en Afrique. Et j'insiste sur la beauté des illustrations de Sophie. Les couleurs, elles sont limpides, elles sont lumineuses, elles sont joyeuses, elles sont tendres. Et puis, par exemple, lorsque on a la Nouvelle-Orléans, ils découvrent la Nouvelle-Orléans, les gens du musée de la Nouvelle-Orléans, du patrimoine de la Nouvelle-Orléans, quand ils ont vu ce livre, me l'ont demandé, je le leur ai offert, m'ont dit, mais, oh, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Là, j'ai de la chance parce que j'y suis jamais
allée. Ils ont adoré. Et puis, lorsque je montre cette double page d'Afrique, justement, parce qu'il y a des doubles pages aussi seules dans ces livres très, très beaux, hein, qui sont des livres à l'italienne, ça s'ouvre en large double page. Sur les genoux, on peut partager à trois, la grand-mère au milieu, les deux enfants de chaque côté, par exemple, ou le grand frère et les deux petits frères et sœurs. Et donc...
Il faut quand même laisser une place pour le chat.
Une peinture merveilleuse. Et très juste. Sophie, quelle Afrique as-tu peinte?
J'ai peint... Je crois que c'est l'ancien Bénin.
Il me semble
que
tu m'avais dit le Bénin. Les costumes sont merveilleux, les personnages sont sublimes, la lumière est belle, et je peux te dire que chaque fois qu'un Africain voit ce livre, il en tombe amoureux. Donc c'est quand même un vrai test.
Mais c'est parce que j'ai eu la chance, parce que je travaille pour Hermès aussi, et je dessine des carrés pour Hermès. Donc en fait, j'ai eu la chance de travailler sur un carré qui s'appelle Trésor royal du Bénin. Mm-hmm. Et c'est d'une certaine manière une continuité pour moi. Enfin, en général, on essaye d'aborder ce qu'on connaît un petit peu, quoi, pour ne pas faire d'erreur en matière de dessin.
Voilà. Alors malheureusement, les dessins, ça, on peut les décrire, on peut en parler à la radio, mais on peut les voir. Par contre, les blouses, on peut les écouter. Alors, je propose qu'on écoute, par exemple, Feel So Blue, parce que, bon, il y a ce Feel So Blue, c'est le numéro 5.
Parce que ce livre est enregistré avec des blues et il y a une demi-heure de blues à écouter seul à la fin. C'est très rare dans les livres CD pour enfants. Voilà. Nous pensons aussi aux parents.
Donc c'est une superbe anthologie en plus. Donc numéro 5, I Feel So Blues.
So blue and lonely with each passing day.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net en streaming partout dans le monde. Et donc, on va continuer, mais très vite, parce que je vois que, au fond, près du radiateur, commence à s'installer dans le studio derrière. Et donc, dire peut-être un petit mot du dernier album dont on va parler maintenant, qui s'appelle « Dis-moi des chansons ». Et donc là, tu es juste l'illustratrice.
Voilà, c'est ça. J'aurais fait auteur-illustratrice et j'ai la chance d'être illustratrice sur celui-ci. Je l'avais également déjà illustré à l'époque de Vif Argent, mais ça m'a fait très plaisir de le reprendre. C'est l'univers de Bruno de la Salle, hein, c'est sa façon de raconter la vie dans le passé de la France, mais une façon très ludique. Et donc moi, j'ai suivi en fait ces petits lutins sur les routes de France pour raconter l'enfance au Moyen-Âge ou les vilains rois dont on pouvait se moquer. Le roi d'Agobert ou ce genre de choses. Je me suis beaucoup amusée avec celui-ci.
Les lutins aux grandes oreilles adorent raconter les histoires vieilles qui sont devenues des chansons. Et donc c'est ça le thème de ce livre merveilleux, reprendre les chansons traditionnelles des enfants, le roi d'Agobert, frère Jacques, la légende de Saint-Nicolas, Malbrouck s'en va en guerre, etc. Et dans la deuxième partie, dont Sophie ne parle pas et qui est magnifique et qui n'existe dans aucun livre de chansons, en double page, une sorte de petit musée construit avec des photos et des dessins et des peintures et des reproductions à partir de ces chansons. On y voit l'ordre de la Jarretière, par exemple, puisque Malbrouck, évidemment, c'est le duc de Marlborough. On y voit une reproduction du petit hameau de Marie-Antoinette, puisque Il pleut bergère, c'est Marie-Antoinette. On y voit des galettes qui ressemblent, je vois le livre ouvert devant moi, aux galettes du Mont-Saint-Michel. Que mangeait-on sur le bateau ?
C'était les biscuits de marin.
Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. On ne savait pas s'il tiendrait bien la mer. Et quand même, il fallait partir. On embarquait même un enfant qui serait apprenti des grands. Il serait mousse sur la dunette. Voilà comment Bruno raconte. Et l'accordéon se met à jouer petit à petit. Il était un petit... Et Bruno chante, il était un petit navire, à peu près aussi faux que moi.
Donc comme il nous reste quasiment plus de temps, on peut peut-être finir sur...
Le roi d'Agobert.
Le roi d'Agobert, voilà. Allez. Donc, alors en plus, ce qui est très sympa dans ce bouquin, c'est qu'il y a quand même toute une mise en contexte historique.
Le roi d'Agobert, comme vous le savez, c'est notre premier roi à Saint-Denis. Il y a même dans ce livre le trône que Saint-Éloi avait offert à Dagobert, un trône en or, parce que Saint-Éloi était le grand argentier du roi. Et en offrant ce trône en or à Dagobert, il prouvait qu'il ne gardait pas l'argent pour lui, mais qu'il le mettait dans le trésor royal.
Voilà, donc on va tout de suite se quitter en écoutant Le Bon Roi d'Agobert. Le Bon Roi d'Agobert, c'est quel numéro ? C'est le numéro 8.
Les lutins aux grandes oreilles qui racontent les histoires vieilles qui sont devenues des chansons aiment les histoires moqueuses. Ce sont surtout ces histoires-là qu'ils choisissent de raconter, surtout si elles parlent des rois et même des rois d'autrefois. Car ils seront toujours les mêmes, les rois puissants qui nous gouvernent, ils resteront toujours des rois. Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté est mal culottée. » Eh bien, lui dit le roi, « Je vais la remettre à l'endroit. » Le bon roi Dagobert chassait dans les plaines d'Anvers. Le grand Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée. » « C'est vrai, lui dit le roi, un lapin courait après moi. » Le bon roi Dagobert avait un grand sabre de fer.
Le grand Saint-Éloi lui dit au mon roi votre...
Donc vous êtes toujours à l'écoute de Singulier au pluriel, sur Fréquence Paris Pluriel, et notre émission est maintenant terminée. Donc j'avais prévu qu'on parle encore de beaucoup d'autres choses, mais malheureusement une heure c'est très court. Donc merci beaucoup Lise. Hein, et donc,
merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci infiniment.
Merci beaucoup Sophie d'être venue. Et merci beaucoup Marie-Jeanne à la technique. Et puis donc il est temps maintenant de retrouver au fond près du radiateur. Et je vous dis à demain pour une émission RESF où on parlera des sujets qui seront beaucoup plus durs puisqu'on parlera notamment des jeunes qui campent devant la PAOMI au 147 boulevard de Stalingrad et d'autres sujets beaucoup moins drôles. Mais donc je vous dis à demain, même heure, 18h pour l'émission RESF. Au revoir.